Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, seconde émission aujourd'hui consacrée à Saint-Siméon de Thessalonique. Nous sommes en compagnie du Père Sébastien Garnier, prêtre à la paroisse de la Dormition à Marseille, professeur de lettres classiques et spécialiste de cet auteur. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de l'œuvre de Saint-Siméon, Père Sébastien. Donc, pour commencer, si vous voulez, un petit tour d'horizon de l'ensemble de ses œuvres, de ce qu'il nous a laissé, et puis parler également de leur diffusion dans le monde chrétien, mais je dirais plutôt ici orthodoxe, grec. Hein. Bon.
Oui, alors on fait le parallèle souvent entre la, un peu facile, je de moins un peu facile, entre la disparition du corps et la diffusion du corpus dans toute l'orthodoxie hellénique et slave des œuvres de Siméon. Alors en réalité, les œuvres de Siméon ont commencé très vite, puisque c'est à la demande des Crétois, hein, justement grâce au fait qu'il y a un lien entre les Crétois et Thessalonique, qui font la demande d'un commentaire liturgique. Donc ça, c'est le premier noyau. On a un commentaire liturgique qui va peu à peu être étoffé dans un dialogue contre toutes les hérésies, avec une partie dogmatique qui reprend tous les éléments, les décisions des conciles écuméniques en matière dogmatique, et évidemment avec une poursuite sur la vie liturgique où tous les sacrements et tous les offices de l'Église, de la prière des heures, dite prière des heures, vont être commentés. Donc c'est quand même une œuvre considérable qui nous donne accès aux réalia, c'est-à-dire aux réalités pratiques du rituel byzantin à un instant T, et d'autre part avec l'interprétation dans une tradition patristique. Troisième élément, on a un traité sur le diaconat, et enfin, nous allons des traités plus dogmatiques sur le symbole des apôtres, ses interprétations, ou de quelles paroles des Écritures est-il tiré ou formé. Et enfin, on a les réponses à Gabriel de la Pentapole. Ce sont une série de questions quadlibétales, comme on dit, ou quadlibétiques, comme on voudra, ou une sorte de synaxe de questions-réponses sur énormément de problèmes pratiques, techniques, liturgiques ou canoniques. Voilà. Donc ça, c'est un corpus qui représente à peu près 7 œuvres qui va circuler de manière soutenue entre la mort de Siméon et son édition par le patriarche d'Osité de Jérusalem en 1682, mais c'est une autre histoire qui commence à ce moment-là. Donc c'est dire que l'œuvre a énormément circulé. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est une œuvre qui n'est pas fixe. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à Siméon, on peut avoir accès à un manuscrit en partie autographe, qui est le manuscrit de Zagora, et on a un manuscrit d'érudit, c'est-à-dire un peu comme les brouillons de Pascal qui ont été faits sur des cahiers, sur des cordes d'étendage. On a un peu ce même type de codex qui a été cousu au fur et à mesure, et on a des indications marginales que Siméon lui-même a, Siméon jusqu'à la fin a amplifié son texte. Donc le texte le plus ancien qui a circulé, qui a été connu, c'est l'explication sur le divin temple et sur la mystagogie, à savoir le commentaire de la Sainte Messe. Ce traité a d'abord circulé de manière extrêmement réduite, de manière très hérénique, sans polémique. C'est ce traité qui a été édité par Jacques Goard le Dominicain dans son Eucologe, c'est-à-dire les savants le connaissent. C'est un Eucologe, c'est un livre qui rassemble toutes les prières eucharistiques ou autres de la tradition byzantine. Et pour illustrer cette réalité qui n'était pas évidente pour un public parisien du XVIIe siècle, il décide, Jacques Goard, d'éditer en grec l'explication sur le temple qui permettra de se faire une image mentale un peu de ce qui est décrit. Mais en réalité, quand on confronte ce texte-là au texte de la patrologie grecque que nous connaissons, c'est un texte amputé d'un quart. Donc, et très très irénique, peu de polémique contre les latins, contre les piclèses. Alors on se dit, le texte a été censuré. Et en réalité, la tradition manuscrite nous montre que non, il y a une première phase très pacifique qui correspond à l'entente cordiale entre Siméon et les autorités vénitiennes. Puis, on a une autre élaboration qui est celle que nous connaissons actuellement. Et dans les manuscrits du Mont Athos que j'ai pu consulter, on a la troisième phase qui est beaucoup moins irénique, qui retourne aux sources du genre mystagogique, c'est-à-dire à Maxime le Confesseur et à Denis l'Aréopagite de manière très claire, puisqu'il y a des citations littérales en marge. Voilà. Donc c'est une œuvre très intéressante pour l'histoire de l'écriture savante à l'époque tardo-byzantine. On a vraiment un dossier important avec la tradition manuscrite de Siméon.
Ce qui montre également l'importance de l'éditeur, Parce qu'évidemment, en fonction de la version choisie, on donne une image différente, puisque l'auteur lui-même a eu plusieurs versions et l'a retravaillé.
Mais d'une part, c'est un fait, mais ce qui est quand même, il y a un débat, parce que quand Goard présente le Dominicain, son édition en grec, c'est que l'édition de Siméon circule déjà de ce texte, l'explication, parce qu'il a été redécouvert par les jésuites. Il a été redécouvert par Pontanus, donc un savant connu pour ceux qui connaissent la Compagnie de Jésus, va redécouvrir ce texte dans un manuscrit de la bibliothèque de Bavière qui a été acheté à Venise, évidemment, donc on voit le circuit entre la Crète, Venise et la Bavière. C'est un texte encore plus court, encore plus irénique, et dont j'ai pu retrouver le manuscrit source. Et cette version était tellement courte et tellement pacifique que Goard la soupçonne d'être insincère ou d'être une forgerie ou d'être réduite. À ce moment-là, il décide de faire une édition bilingue. Mais c'est encore une version courte. D'où l'intérêt de ce texte. C'est un texte qui a beaucoup évolué, et notamment en contexte de dialogue plutôt polémique. Donc il y a des amplifications, donc c'est un texte qui commande la liturgie eucharistique. Évidemment, c'est un classique du genre, on appelle ça commentaire mystagogique. On connaît les catéchèses mystagogiques de Cyrille de Jérusalem qui décrit l'initiation des nouveaux baptisés. Il va y avoir une continuité dans ce genre en s'intéressant à la liturgie eucharistique avec, évidemment, le pseudo Denis l'Aréopagite et Maxime le Confesseur. On aura évidemment Germain de Constantinople plus tard. Et à la fin, peu avant, un certain Nicolas Cabasillas, que certains connaissent, qui a écrit un commentaire de la liturgie juste avant celui de Siméon au XIVe siècle, est un savant aussi de Thessalonique, mais laïque, lui, et qui a une vision non pas du point de vue de l'archevêque, mais du point de vue du fidèle. Et Siméon propose, lui, une liturgie idéale, célébrée par un évêque, à destination d'un public qui n'ont pas d'évêque, comme c'est le cas en Crète. Donc on a une œuvre qui retourne aux sources du genre dans la structure, mais qui va évoluer, c'est-à-dire les parties problématiques, c'est évidemment la question de la vénération des oblats pendant la liturgie eucharistique qui pose un énorme problème théologique à ce moment-là, c'est le début, et sur la question de l'épiclèse. Quand le corps du Christ est-il consacré dans l'Eucharistie? On voit que c'est un problème qui commence à poindre déjà en Occident, alors que à Constantinople, ce n'est pas vraiment un point de fixation. Quand on lit même le commentaire de Siméon, on a du mal à déterminer le moment précis où ça advient. En tout cas, c'est très clair qu'il y a une vision réaliste du corps et du sang du Christ qui va bien sûr intéresser l'Occident quand il s'agit des querelles eucharistiques avec les protestants. Donc Siméon va être utilisé et convoqué dans ces débats-là, grâce aux éditions de Goard et de Pontanus dont je vous ai parlé. Ainsi, l'édition de Dosité de Jérusalem en 1682 est-elle une réappropriation de l'œuvre de Siméon par les orthodoxes eux-mêmes, avec une œuvre savante, soignée, publiée en Moldavie, enfin, pour des presses d'un monastère, d'un métocium du Saint-Sépulcre. Et c'est cette édition-là qui va circuler, que nous allons tous connaître, puisqu'elle sera reproduite par l'abbé Migne au XIXe siècle. Voilà. Pour faire un tour d'horizon rapide des œuvres de Siméon qui nous permettent de le connaître.
Et ce sera donc le tome 155 de la monumentale patrologie de Migne.
En effet.
Maintenant, une question concernant donc le fond de sa pensée et surtout les quelques caractéristiques qui parcourent l'ensemble de son œuvre, si je puis dire, avant de rentrer dans des détails peut-être. Quelle est sa pensée, si on peut, si il faut la résumer en quelques mots, je dirais.
La pensée de Siméon, c'est que l'Eucharistie, et partant de là, la vie sacramentelle de l'Église, c'est le point ultime de l'incarnation, et c'est la vie liturgique et sacramentelle, ce qui permet au mystère de l'économie du Christ de perdurer jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que par des symboles sensibles, on accède à l'invisible, parce que nous sommes des composés psychosomatiques. Donc c'est très fort dans sa pensée que les symboles pourtant visibles, dans lesquels se déploie la liturgie, c'est-à-dire le bâtiment, la musique, tout ce dispositif tridimensionnel, participent à l'incarnation du Verbe et à ses deux natures, puisque comme l'homme est composé d'une partie visible et invisible, le Christ lui-même est fait de deux natures, l'une visible et l'invisible, le bâtiment ecclésial lui-même est fait d'une partie visible, invisible, accessible, non accessible, et tout le dispositif de déplacement à l'intérieur du bâtiment va inscrire le corps, l'esprit dans cette dynamique de l'incarnation du Verbe qui descend jusqu'à nous et qui nous mène à la contemplation du royaume à venir. Puisque pour Siméon, il n'y aura pas d'autre contemplation dans le monde à venir. Il identifie, c'est ça le point fort de sa pensée, le royaume des cieux avec l'économie du Verbe incarné, c'est-à-dire l'idée que le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, s'est anéanti pour être accessible aux hommes et que sa chair nous redonne accès à la vie qui nous divinise. Voilà, c'est l'idée que l'Église, le bâtiment, les rites sont plus qu'une icône, moins qu'un sacrement peut-être, entre les deux. En tout cas, c'est quelque chose de dynamique qui nous permet de d'emboîter le pas aux énergies incréées du Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire que c'est la chair divinisée du Christ qui se perpétue dans le bâtiment, dans l'Église, dans les sacrements, dans les symboles qui sont déployés. Alors Siméon a une phrase d'ailleurs, il dit que ces symboles ont acquis un tel degré de beauté, de splendeur, que pour tous ils sont un sujet d'étonnement et qu'on se demande bien quelles sont les raisons d'être de tout ce que l'Église déploie et enseigne.
Allons donc dans l'église maintenant pour écouter un extrait du psaume 102 qui est chanté au début de la Divine Liturgie et on va revenir là-dessus. C'est donc le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycurgos Angelopoulos. Un extrait du psaume 102, chanté par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Lycurgos Angelopoulos. Nous sommes au début de la Divine Liturgie, les typica, comme on dit. Alors, Père Sébastien Garnier, puisque Siméon de Thessalonique est un grand liturgiste, c'est peut-être le moment aussi de dire un mot sur ce qu'on vient d'entendre, enfin, à quel moment nous sommes dans la liturgie, pourquoi c'est placé là, etc.
Alors, nous sommes au début de la liturgie. Cet office des typica peut être parfois remplacé par l'office des trois antiphones. Alors, justement, c'est une structure de l'office qui a gardé la structure de l'office cathédral. Et pour Siméon, c'est un sujet d'étonnement, puisqu'il voit le peuple de Thessalonique qui, parfois, lors des vêpres cathédrales où des matines entend ces typica ou ces offices de trois antiphones et pense que c'est le début de la liturgie. Voilà, pour dire à quel point c'est quelque chose, une structure récurrente dans l'office byzantin. Après, Siméon a une vision théologique, c'est-à-dire que pour lui, comme vous l'avez entendu, ce sont des psaumes, et le psaume serait, il fait une analogie avec l'icône, le psaume serait comme le graphe, la trace, l'ombre, et l'hymnographie, la musique, serait comme la lumière ou la couleur qu'on rajoute à une icône, et que donc la liturgie permet de révéler les potentialités typologiques qui sont sous-jacentes dans l'écriture. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester à une lecture pure des textes bibliques. Il faut toujours les agrémenter. En plus, il y a une vision de conception de la musique comme une musique où l'Église a fait un choix délibéré de 8 modes, où il y a 8 éthos qui sont compatibles avec des états psychologiques et de l'âme, et qui permettent de guérir des passions de l'âme, donc une valeur thérapeutique. C'est-à-dire que Siméon envisage la liturgie d'un point de vue total.
On en vient maintenant donc à son œuvre de nouveau, et puis cette œuvre sur laquelle vous avez travaillé, qui a plusieurs titres aussi, il faut dire, explication de la liturgie, explication du temple, etc. Alors, on voit le lien.
Alors oui, on a des titres intéressants. Alors déjà, le premier titre, c'est Herminia, donc c'est l'interprétation comme un texte. On pourrait dire que c'est une explication, interprétation. Alors on nous parle du temple, on nous parle des ornements, des mystères qui s'y déroulent. Le titre est très long dans sa version la plus répandue, de la divine mystagogie. Alors là, il y a une sorte de mélange, c'est-à-dire qu'on prend le genre le genre qui décrit, on le prend pour l'objet décrit, c'est-à-dire que la mystagogie peut signifier, en langage courant en Grèce aujourd'hui, ça peut signifier la messe, la liturgie, mais c'est aussi le processus d'initiation, un mystagogue, on reconnaît le pédagogue, enfin celui qui vous introduit au mystère. Et on peut avoir une autre interprétation, un autre titre comme Exilicis, explication. Donc c'est un titre qui a beaucoup varié, mais l'idée c'est on interprète la liturgie comme un texte biblique, puisque l'expérience biblique se vit aujourd'hui et maintenant dans le cadre de l'Église. Le peuple de Dieu revit les grands événements de l'histoire du salut et de l'incarnation grâce à la liturgie. Donc le titre est très important. Ce qui est très intéressant aussi chez Siméon et ce que les commentateurs occidentaux ont vu, c'est que la fine pointe théologique ou les éléments les plus saillants de sa théologie sont dans le prologue. C'est là qu'on va tout avoir. C'est comme une sorte de prélude où tous les thèmes de la symphonie qui vont être développés sont amorcés et vont être repris plus tard. Donc, par exemple, on a dans son prologue la conception qu'il a du sacrement, de la visée de la diviniturgie. On peut d'ailleurs lire à ce propos un extrait. Par exemple, sur l'Eucharistie, pour lui, c'est ce qu'on retrouve dès le prologue, hein. Car si lui, en parlant du Christ, comme nous, a communié tout à fait à la chair et au sang et s'est donné à voir comme homme comme nous, quoiqu'il fût Dieu sans changement, sa visée en revanche, notre participation à sa divinisation, il l'accomplit de cette manière divine et au-dessus de la raison, se mélangeant lui-même à ce qui nous nourrit et à ce qui nous abreuve, quoiqu'il soit partout présent. En changeant le pain et le calice en son corps et en son sang par sa puissance, puisqu'il est tout puissant. Par ce moyen donc, il se mélange et se mêle à nous. Donc on voit une vision extrêmement réaliste de la participation à la grâce. La grâce, alors je ne vais pas entrer dans le débat, grâce créée, grâce incréée. En tout cas, Siméon est héritier de sa tradition. Pour lui, elle est incréée et donc ce qu'il voit, c'est des effets dans la création, dans l'œuvre créée, qui sont tout à fait exceptionnels. Mais ce n'est pas en termes de prodige, c'est plutôt l'exceptionnel, c'est l'anéantissement de la divinité qui se prête à s'engager autant dans l'histoire humaine, dans le rituel, dans les choses vraiment les plus simples qui font la vie d'un homme. Se nourrir, pour le baptême, il y a le parallèle avec le bain. Enfin, ça, on le retrouve également dans la pensée de cette époque. Donc, c'est une pensée qui veut montrer que l'accès à la divinisation et à la grâce se fait ici et maintenant, qu'il n'y a pas d'ailleurs, que ça se passe dans le rite, mais que cela et pédagogique et proportionné à notre désir, à notre volonté, à nos capacités.
Et il procède comment ? Est-ce qu'il donne à son œuvre la forme ? Il suit la liturgie, l'office, vraiment ? Est-ce que c'est synthétique ?
Alors, c'est assez... On est quand même obligé d'avoir des ordos, des ordines, enfin des diataxis, pour avoir un peu une idée de quel est le rituel qu'il a suivi. Alors, heureusement, on comprend qu'il est l'héritier de Philothée Kokinos, qui est un patriarche réformateur lui aussi, qui est le lien entre Grégoire Palamas et Siméon.
Patriarche du XIVe siècle.
Du XIVe siècle.
Disciple de Grégoire Palamas, à l'origine aussi de la canonisation de Palamas.
De Palamas, tout à fait. Ouais. Et qui a composé des prières. Et du coup, on peut faire un parallèle entre leurs deux activités. Ils se ressemblent beaucoup quand on voit composition d'office, d'hymnographie, enfin, ce sont vraiment les mêmes familles spirituelles. Et donc, le plan de Siméon, il y a quand même un leitmotiv. Le leitmotiv, c'est que le Christ, de manière existentielle, par le fait même de son incarnation, a réalisé pour lui-même tous les sacrements. C'est le mystère total du Christ, voilà, qu'il identifie au mystère de l'économie dans son sens paulinien dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est de voir l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et alors, c'est quand même assez beau de voir cette connexion, c'est que cette pensée, on la retrouve chez Philothée Kokinos dans son homélie sur les proverbes, et on en trouve une illustration contemporaine dans l'icône d'Andrei Roubliov, la Trinité ou l'hospitalité d'Abraham. C'est vraiment cette idée du conseil éternel de la Trinité qui, en prévision de la faute d'Adam, mais non conditionnée par le péché d'Adam, par un excès de grâce et d'amour, décide, c'est une œuvre trinitaire, que le Verbe s'incarnera et sera immolé. Et on peut faire le lien entre cette représentation iconographique, la conception de l'Eucharistie de Siméon et la conception de l'Eucharistie de Philothée Kokinos.
Et on voit bien donc qu'il y a, malgré les différents courants dans l'Église, etc., il y a une continuité dans la pensée, et depuis les temps patristiques anciens, évidemment, et que ceci se traduit encore dans des choses très pratiques dans la célébration, et qui sont retrouvées par des penseurs tardifs, je dirais.
Oui, voilà, puisque c'est le reproche que l'on fait souvent, Cabasilla, c'est beau. Beaucoup plus goûté par Siméon. Or, Siméon, c'est un accès vraiment pratique pour tous les fidèles, et c'est pour ça que c'est un écrivain populaire en Grèce et malheureusement pas encore chez nous.
On attend votre traduction et édition. Merci beaucoup, Sébastien Garnier. C'était donc deuxième émission sur Siméon de Thessalonique avec le père Sébastien Garnier. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Manuel Couturier. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.